90.3 FM.
C'est Coco Béliveau, vous écoutez Laisse vos sons avec Nathalie Palma, sur les ondes de CKUT 93 FM.
Bonsoir et merci d'être à l'écoute. C'est un réel plaisir de recevoir Coco Béliveau, artiste multidisciplinaire acadienne qu'on connaît surtout comme humoriste au Québec. Elle mélange l'humour, le rap et les réflexions, toujours dans l'espoir d'apporter un changement social. Elle est aussi porte-parole du 40e anniversaire de la Journée de visibilité lesbienne, organisée par le Réseau des lesbiennes du Québec, qui aura lieu le 23 avril prochain. Bonsoir Coco Béliveau, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir, super contente d'être là, enfin.
Oui, enfin. Tu es née à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, d'où ton charmant accent. Tu as trois sœurs, donc une famille en majorité féminine. Quels souvenirs tu gardes de ton enfance?
J'ai eu une enfance vraiment super. Pour vrai, je pense que j'ai vraiment été choyée d'avoir trois sœurs. Puis ma mère, puis j'avais mon père pendant un bout, mais il est décédé quand même quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup été entourée de femmes, de présence féminine forte, de femmes drôles surtout. Fait pour moi, ça a été vraiment comme un boost là, pour la personne que je suis devenue aujourd'hui. T'sais, j'ai toujours été centrée sur les enjeux féministes puis tout ça. Fait que j'ai vraiment trippé tout mon enfant, à quelque part, je pense.
Tu es une artiste très engagée et créative. Tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Est-ce que c'était déjà présent en toi quand tu étais jeune?
Je pense que j'ai toujours eu un profond sens de la justice. C'est comme ma valeur numéro un. Là. Ma psy, elle m'avait demandé là, à Mamie de faire ma liste de mes valeurs. Puis elle m'a dit, si tu vis par cette liste-là, tu vas jamais être malheureuse. Puis là, mon numéro un, c'était la justice. Puis si je regarde comme des choses que je faisais quand j'étais enfant, là, quand j'étais jeune, je jouais à agent de sécurité. Là.
Okay.
Puis, je me promenais à l'entour avec une cuillère de bois puis je disais à tout le monde, genre, non, faut pas te chicaner, il faut faire ça. Ça a toujours été comme un peu présent dans... dans mes jeux. C'est un peu plate comme jeu, mais c'est comme ça que j'étais.
Tu as fait un bac en théâtre à l'Université de Moncton et quelques comédies musicales aussi qui t'ont permis de voyager. Tu as même une formation de clown de rue. Est-ce que c'est ce qui explique ton aisance sur scène? Puis est-ce que tu aimerais rejouer au théâtre ou refaire du clown?
C'est sûr que éventuellement, le clown, j'adore. J'aimerais retourner. J'ai même considéré presque aller à l'école de cirque après ma formation d'école d'humour, mais c'était comme non, je veux vraiment, faut que j'arrête de lâcher mes activités puis je m'investis parce que l'humour, j'aime vraiment ça puis j'aime beaucoup m'exprimer. Mais le clown, il y a quelque chose de vraiment particulier, puis c'est sûr, je vais retourner. Puis le théâtre, c'est sûr que j'aimerais s'en refaire. Je vois ça plus comme des choses qui vont être sur mon parcours puis qui vont partir de mes outils que je peux utiliser. C'est sûr que je suis vraiment multidisciplinaire pour vrai. J'ai besoin de m'exprimer dans plusieurs façons. Fait que c'est sûr que ça va revenir. Je sais pas exactement sous quelle forme. Des fois, c'est combiné aussi. La musique, c'est sûr que je suis encore là-dessus. Je pense que l'humour, c'est comme mon central. C'est la façon que je comprends le monde. Puis ensuite, tout ce qui touche ça, ben ça m'intéresse aussi. ça a été vraiment important sur mon parcours parce que j'étais pas une jeune qui savait bien s'exprimer. Fait que pour moi, de faire l'école de théâtre, je pense sincèrement que ça a été vraiment thérapeutique. Là. Comme j'ai appris à jouer, je joue bien, mais tu sais, j'ai surtout appris vraiment à m'exprimer de façon que tout le monde peut comprendre, de façon qui est claire, qui a une cohésion, puis je changerais rien. Si je peux retourner dans le temps, là, je commencerai pas à faire de l'humour plus bonheur. Là. Je ferais vraiment tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment bien fait, je pense.
Oui, puis ça doit te servir en humour aussi, comme la présence sur scène.
Oui, c'est ça, c'est ça. Comme tu dis, la présence de scène, oui, c'est sûr que ça se développe au cours d'une vie. Là. Je pense pas que j'en avais vraiment quand j'ai commencé. Puis avec le théâtre, tu apprends à occuper l'espace. Puis avec le clown aussi, tu apprends à occuper l'espace. C'est toutes des manières de prendre la place puis de s'exprimer aussi. Ils l'ont décortiqué à un moment donné, là, ces trois affaires. C'est le charisme, le pouvoir. Il y avait trois affaires, je me rappelle pas exactement, mais pour moi, vraiment, le sentiment que j'ai quand je parle présence, c'est vraiment le feeling d'extériorisation, d'énergie intérieure.
Tu peins et tu dessines aussi, ça fait partie de tes multidisciplines. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais présenter au public à un moment donné?
C'est sûr que j'ai pensé souvent faire des petites expositions, mais ce que j'aime vraiment, c'est que je peux décorer ma maison un peu avec ce que j'ai dans ma tête. Puis, tu sais, j'en ai vendu des toiles dans le sens où les gens ils vont venir dans mon salon puis ils vont faire ça, c'est magnifique, ça faire. Puis là, après ça, je remplis mon mur avec de quoi de nouveau. Puis c'est ça qu'il y a des toiles qu'à un moment donné, je les range parce que je les ai trop vues. Mais pour moi, c'est plus un exercice méditatif. C'est une autre façon d'exprimer aussi. Là. Ça reste vraiment mon besoin principal, c'est de sortir des choses qui sont dedans. Mais la peinture puis le dessin, tout c'est une des premières choses auxquelles j'ai touché. C'est une des choses aussi qui est tellement simple. Il n'y a pas vraiment de besoin de qualité ou quoi que ce soit. Tu fais juste y aller, puis à mesure, tu trouves des techniques, puis tu t'améliores, puis c'est vraiment relaxant. C'est surtout pour ça que j'adore ça, parce que ça me permet de me concentrer puis d'être dans le silence. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Là. Je suis vraiment tout le temps en train de parler, puis bouger, puis penser, puis OK, là, il faut que je trouve une idée, une blague. Mais là, ça, c'est comme, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas de pression. Fait que c'est sûr que pour moi, je me vois pas nécessairement virer sans carrière. Peut-être quand je serai prête, je vais être comme, c'est le moment, mais c'est comme mon petit paradis. J'ai peur de comme transmettre ça dans le monde du travail, puis que ça devienne plus amusant.
Oui, je comprends. Puis à quel moment est-ce que tu as décidé de venir t'installer au Québec?
Bien, quand j'étais jeune, je savais que je voulais venir à Montréal parce que je percevais ça comme une place où j'allais pouvoir être libre, perdre l'or, puis qu'il y avait beaucoup d'artistes. Puis j'ai eu peur au début, fait que j'ai été faire mon bac de théâtre au Nouveau-Brunswick, puis je me suis dit, je vais y aller après, puis je suis quelqu'un de bien stressé. Ensuite, on m'a proposé d'aller à l'école d'humour. Plusieurs personnes m'ont proposé d'aller à l'école d'humour. J'étais comme, OK, je sais pas.
Parce que c'était déjà drôle?
Oui, parce que j'étais quelqu'un de drôle. T'sais, je faisais du stand-up quand j'étais à l'université, mais je voyais pas ça comme étant une carrière nécessairement. T'sais, j'avais pas beaucoup de connaissances sur de quoi ça a vraiment l'air concrètement vivre ça dans le quotidien. Et que j'en faisais dans des petites soirées de stand-up parce que j'aimais ça, mais j'en faisais vraiment pas souvent. Puis j'avais une compétition. Puis le manager Juste pour rire, il avait fait tout très bonne, mais il faudrait vraiment que tu apprennes à t'organiser. Puis j'étais comme, oui, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai un ami qui est allé à l'école du monde, puis il m'a dit, il faudrait vraiment que tu viennes. Je pense que tu vas beaucoup aimer ça. Puis quand je suis arrivée, j'avais aucune idée si j'allais réellement trouver ma passion, là. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font l'école d'humour avec la vision de comme ça fait depuis que j'ai 16 ans que je veux être un humoriste ou je sais pas trop. Depuis que je suis un bébé, j'aime faire rire les gens. Puis là, moi, je suis un peu comme, j'ai toujours peur. Je suis comme, oh, je vais te punir, je vais te donner ça. Puis j'ai vraiment trippé. Puis je savais que j'allais rester. Après ce moment-là, j'étais comme, je m'en vais pas. C'est sûr que non.
Puis tu es diplômée de l'École nationale de l'humour depuis 2016. Tu t'es rendue en finale de la première édition de l'émission Le prochain stand-up en 2020. Puis tu as été nominée au Gala des Oliviers en 2021 dans la catégorie du numéro d'humour de l'année. Tu traites souvent de sujets politico-féministes. Comment c'est perçu dans le milieu de l'humour qui est encore très masculin?
Je pense que c'est rafraîchissant. Moi, je sens dans la relève une vague de changement à ce niveau-là. Je pense que les gens ont toujours été à la recherche d'authenticité. Puis de plus en plus, ils veulent se sentir aussi qu'ils ont un but dans la vie. Là. Comme les humoristes veulent sentir qu'ils font un changement, puis qu'ils touchent les gens, puis que les gens connectent avec eux, puis qu'on évolue. Là. C'est sûr que je pense pas que tout le monde voit l'humour de cette façon-là, mais reste que c'est quand même bien perçu. Je pense que en général, les gens, ils comme à ce que j'ai à dire. Puis c'est le fun de voir surtout les autres. Des fois, j'ai l'impression que ce que je dis, ça les concerne pas du tout. Là. Fait que je me sens peut-être... T'sais, pas que je les ignore, mais c'est sûr que j'écris pas avec les hommes en tête. Là. Je suis pas en train de me dire que je vais leur parler. Je suis en train de me parler à moi. Là. Je suis en train de parler aux gens comme moi qui ont besoin d'entendre ce que moi j'ai à dire. Fait que, surtout que l'humour n'est pas dirigé nécessairement vers les femmes en gros général. Fait que pour moi, quand ils me disent « Ah ouais, j'ai vraiment trippé sur cette idée-là » puis que je vois qu'il y a une compréhension, puis tout ça m'encourage quand même pour le futur du combat féministe.
Oui, puis ça fonctionne. Là. Je viens de nommer tout ce que tu as fait. C'est comme ça fonctionne bien là, pour toi là, quand même.
Ouais, t'as raison. Ça va pas pire. Je suis quand même contente. Je regarde ça souvent avec un regard de comme, qu'est-ce que la version adolescente de moi penserait de moi, puis je pense qu'elle serait comme, OK, t'es-tu sérieuse? T'es-tu sérieuse? C'est comme, ouais, sérieuse.
Le métier d'humoriste est très solitaire en soi. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment de réussir à faire rire les gens avec des sujets qui te touchent plus personnellement?
C'est vraiment une bonne question. C'est ça, je pense que quand tu connectes avec quelqu'un, il y a vraiment quelque chose de profond. Tu sais, quand, c'est comme le sentiment de lire un bon livre. Là. Tout à coup, le livre, tu as l'impression qu'il a vraiment été écrit pour toi, puis il y a comme un sentiment d'attachement. Puis je ressens ce même sentiment d'attachement-là avec les gens que ça les interpelle, là, ce que je dis. Tu sais, je parle beaucoup avec les gens sur les médias sociaux quand je fais des stories, puis ils sont comme « Ah oui, moi tellement ça! » Puis ils me racontent des histoires, puis je suis comme « Oh my God! » C'est comme, moi, ça me donne vraiment ce sentiment de ne pas être seule quand ce que je m'exprime. Ouais. Quand ce que je dis, ce que j'ai à dire, tout à coup, je suis pas toute seule dans mes pensées. Ça devient comme collectif, ça devient comme nous, on pense de même. Puis pour moi, c'est vraiment ce sens de communauté-là que j'essaie de chercher quand je dis quelque chose. C'est sûr que j'ai des idées que j'exprime, que les gens sont comme non, on pense pas comme ça. Puis je suis comme OK, cool, je suis seule. Mais en gros, général, quand j'ai une frustration par rapport à quelque chose dans la société, parce que ça reste ça la base de mon humour, c'est souvent, je suis juste comme c'est bien trop whack là, que ça se passe de même. Puis les gens ont le même feeling. Puis, parfois, peut-être, ils sont surpris par l'observation, mais ils se rendent compte que, OK, j'ai laissé ça passer sans voir que ça avait vraiment une signification. Je sais pas trop. Ouais, la communauté. Final answer.
Tu rappes dans la chanson Pas le temps de scroll down de Calamine. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce texte et comment tu t'es retrouvée sur l'album de Calamine?
Calamine, elle m'a contactée pendant la pandémie parce que je fais beaucoup de médias sociaux. Puis là, elle avait cette toune-là sur les médias sociaux. Elle a fait pas une toune de médias sociaux, comme la toune, c'est la thématique de la toune. Mm-hmm. Puis elle s'est dit, ah, t'aimerais-tu faire un featuring? Puis elle m'a donné comme un. Elle m'a montré son track. Puis, tu sais, je l'ai jamais rencontré. Là. J'ai tout enregistré ça chez moi. Je lui ai envoyé. Fait qu'il n'y a aucun moment où on a eu un contact réel pendant cette toune-là. On s'est rencontrés par la suite dans un podcast. J'ai vu Calamine peut-être deux fois en personne dans ma vie. Là. Puis une fois, c'était parce que j'ai été voir son show. Puis tout, mais on s'était jamais rencontrés. Tout ce que j'avais, c'était des tunes sur Instagram, parce que je fais du rap sur Instagram, des freestyles souvent. Puis elle avait vu ça. Je pense qu'elle me suit parce qu'elle a un groupe aussi, Petit Papa, avec Sam Fay.
Oui.
Puis lui, je l'avais rencontré dans un événement de rap à un certain moment, puis il m'avait montré une tune. Puis là, on s'était suivi sur Instagram. Fait que là, lui, sûrement qu'il lui a montré ce que je fais, parce que, tu sais, on a beaucoup d'interconnexions dans nos sujets de prédilection.
Oui.
Puis, puis là, elle m'avait demandé d'écrire ça, puis là, c'était comme, tu peux faire aussi longtemps que tu veux, puis j'étais trop gênée. J'étais comme, non, je vais vraiment prendre l'espace que ça. Puis j'ai juste rempli ce bout-là. Je voulais faire quelque chose qui me représentait, qui était différent de ce que j'étais en train de faire dans le tourne, un peu plus. Je dis, j'ai vraiment, c'était ma première expérience avec un featuring. Je suis quand même contente, c'est pas très long, là. Et par la suite, j'ai fait la tune Gros Côte avec elle, puis Petit Papa, justement.
Oui.
Puis là, j'ai fait plus long, puis j'étais, comme, je commence à être plus à l'aise. C'est sûr que je suis très, très nouvelle dans le monde du rap, fait que je suis toujours en train de, comme, d'apprendre, puis tout, puis j'ai vraiment toujours peur de, comme, écrire de quoi, puis les gens sont comme, OK, là, ça fuck la tune, on veut pas, là. J'ai vraiment très attention, mais je suis vraiment contente parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été cool, puis qui me donne la chance de travailler ce talent-là que j'ai découvert beaucoup plus tard dans la vie.
Puis elle est vraiment bonne, cette tune-là, on va l'écouter. Pas le temps de scroll down de Calamine feat. Coco Béliveau.
Plus souvent qu'autrement, ce que je vous dis, là, c'est pas mon opinion. Je ramasse des opinions d'un peu partout sur les réseaux sociaux. Je brosse ça un peu. Je mélange ça dans une genre de sauce.
Pas besoin de t'installer un adblock. Wow. Mets de la lotion sur ton laptop. Wow. J'écris à la mitaine et en cap là. Wow. Tu peux déconnecter, moi je lag pas. Wow. Hey, check. C'est quoi dans mon mal de vivre? Contrôle la delete. Hein? Je me jette à l'eau puis je saute dans le sac de riz. Trop longtemps j'ai pas ouvert de livre. J'suis pas sur les réseaux, j'suis pas des os. C'est des 1 puis des 0. Pas vu ton post, non bro. Mon brain se décompose. J'veux pas le code de ton wifi. Le cyberespace me monopolise. Faut-tu que j'te fasse un high five? De ranger ton sel, c'est trop pas poli. J'check pas des séries le soir. Aide-moi pas au kit de bord. J'veux juste jouer au skippo avec Guy Lepard. Je veux pas de date avec Alexa pis Siri. J'fais des freestyles dans Villa l'épicerie. Top shape, c'est mon motto. J'jog jusqu'à follow. J'suis pas sur Insta, juste mon nom qui me follow. Non, j'ai pas le temps de scroll down. Non, j'ai pas le temps de scroll down.
I mean, new phone, who this? Toutes les choses que je veux sont déjà dans ma wish list. J'drop des face bombs pis tu tapes les cuisses. Si t'es sur mon serveur, t'es mieux de drop des tips, yo. Screen des clics, screenshot, screen bang. Tu traînes dans les likes sur mon Instagram. Tu captes pas que j'essaye juste de work, man. J'ai assez de dick pic pour starter OnlyFans.
Je veux pas de date avec Alexa pis Siri. J'fais des freestyles dans Villa l'épicerie. Top shape, c'est mon motto. J'jog jusqu'à follow. J'suis pas sur Insta, juste mon nom qui me follow. Non, j'ai pas le temps de scroll down. Non, j'ai pas le temps de scroll down. Oh yeah, ça scroll dans le East et puis ça scroll dans le West. SMS, SMN de voir des fautes quand je texte. Mon écran de sel, tout décollisse. Low battery, oh, il pâtisse. Jouer dehors, moi, je suis all-in. Je suis bronzé quand il police. Netflix and shit, t'as déjà tout vu dans le moindre détail. Benché, ben chill, ils ont trouvé comment traiter bien le bétail. J'aurais pu faire influence, ça a pas à donner. Shout out aux milliers de pages que je suis pas abonné. Je veux pas de date avec Alexa pis Siri.
fais des freestyles dans le filet d'épicerie. Top shape, c'est mon motto. J'jog jusqu'à follow. J'suis pas sur Insta, juste mon nom qui me follow. Non, j'ai pas le temps de scroll down. Non, j'ai pas le temps de scroll down.
De boulettes.
Nous sommes de retour avec l'artiste Coco Béliveau. Tu participes à des battle rap au World Up. C'est encore un milieu très masculin et tous les coups sont permis. Tu es très solide, la foule est souvent de ton bord. C'est quoi ta motivation pour participer au battle rap?
Je pense que j'ai beaucoup de frustration avec le patriarcat, puis j'avais nulle part où canaliser cette énergie agressive et colérique. La première fois que je l'ai faite, je savais pas comment j'allais me sentir, puis juste, c'est vraiment comme, si tu me disais, tu sais, les pièces là où tu peux aller péter des affaires, là.
Oui.
Genre, tu te pointes, puis tu, genre, tu détruis des affaires, là, c'est ça que ça me fait. J'ai vraiment l'impression de rentrer là, puis de juste donner des coups de poing dans, genre, le problème invisible. Fait que je l'ai fait la première fois, puis j'étais comme, oh, OK. Je me sens, je suis comme puissante, là. Puis c'est très rare en tant que femme qu'on a des espaces, surtout pas un espace, je m'attendais pas à me sentir même dans un espace comme qui est aussi masculin et puis qui est quand même agressif. J'étais vraiment comme, oh, OK, je me sens vraiment forte, mon pouvoir féminin, puis tout. Fait que là, j'ai continué à faire, puis pour vrai, pour moi, c'est... Puis en parlant avec ma psy, elle m'a dit que c'était une bonne façon de sortir ma colère de façon concrète, puis de façon consensuelle, puis de la bonne manière. Fait que j'étais vraiment comme, OK, je continue. Mais je vais là pour crier après des hommes. Je les haïs pas pour vrai. C'est pas personnellement eux. C'est vraiment juste que ça me fait du bien de vider mon sac. Puis c'est comme pas de rabaisser une personne individuelle, mais plus les idéologies qui me dérangent. Ouais. Puis d'aller aussi dans le milieu puis de me défendre contre ces affaires-là que je trouve dégueulasses. Vraiment de me pointer puis être comme... Non.
Puis t'es super bonne, tu gagnes souvent.
Mais merci.
Mais de recevoir, parce que t'attaques, mais tu te fais attaquer aussi. Est-ce que c'est difficile des fois?
Mais c'est sûr que c'est, si tu veux attaquer, il faut que tu te fasses attaquer, ça vient avec. Là. Genre, je m'attendrais pas à crier sur quelqu'un puis qu'il n'a pas le droit de répondre. Là. Ça, je trouverais pas ça juste.
Oui.
Ceci dit, comme dans le vrai monde, oui, je trouverais ça juste parce que je pense pas que les voix qui ont déjà beaucoup de pouvoir ont besoin nécessairement toujours d'être entendues, là, sincèrement. Mais là, on parle vraiment d'un contexte one-on-one, là, fait que je trouve quand même que c'est respectueux. Je trouve que c'est dur à entendre des fois, ça m'arrive. Je pense que le roast anti-humoriste, je trouve ça plus blessant parce que c'est des gens que je connais mieux, qui viennent de mon domaine, puis que l'humour, c'est tellement mon obsession que... Si un humoriste serait pour me dire t'es pas drôle, je serais comme pourquoi? Mais si un battle rapper s'attaque à ma personne, je suis juste, moi je suis confiante dans qui je suis, là. Je veux dire, de me dire que je suis une grosse lesbienne, je suis comme ben oui. Pourquoi ça m'insulte pas dans le sens où je pense que justement ce qui est le fun de ça, c'est de voir que ces choses-là qu'on pourrait voir comme étant dégueulasses, tout à coup ils perdent complètement leur sens devant moi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça que c'est. Là. C'est ça qu'il y a des choses qui ont été dites parfois que j'ai fait. OK, c'est un peu dégueulasse. Mais à part de ça, je pense que c'est un médium qui a toujours appelé à ça. Peut-être qu'on est en train de changer. Moi, je fais pas du battle rap de cette façon-là. Je vais pas dire des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs juste pour avoir une réaction. T'sais, je vais là pour faire ça de ma manière, mais je comprends que les autres qui ont leur processus, puis c'est bien correct.
Puis est-ce que c'est recommencé, les battle rap?
Il y en a, il y a d'autres ligues, là. Il n'y a pas juste le Word Up, mais le Word Up n'est pas reparti encore à ce que je sache. Là. Évidemment, moi, j'avais vraiment en tête que je voulais avoir la ceinture du Word Up, fait que j'attends un peu de retourner à ça, surtout que je suis vraiment très occupée, là. Je ne veux pas m'investir dans toutes les ligues en ce moment, mais puis aussi, je travaillais sur un EP qui est maintenant au stade de mastering et de mixing, là, les deux dernières.
Yes.
J'ai tout écrit, j'ai tout enregistré. Fait qu'il y a eu une période où j'étais vraiment pas concentrée sur le battle rap parce que... Puis je dois dire qu'en ce moment, tu sais, quand ça retourne, ça va être une réflexion que j'ai à avoir parce que je me sens pas tant fâchée en ce moment. Je m'exprime vraiment beaucoup. J'écris après beaucoup de monde. Je me sens pas vidée, mais tu sais, je suis vraiment bien en ce moment. Puis je sais pas, ça va me prendre... quelque chose pour me motiver. Là. Je suis sûre que c'est sûr que la colère est toujours en train de remonter. Je pense que le féminisme a ses phases. On, des fois, on a une écœurée en tête de tout ce qu'on voit, puis on est découragé. Des fois, on se sent comme, OK, là, c'est le moment d'aller à l'action, puis sûrement que cette phase-là va revenir pour moi à un certain moment.
Oui. Tu as déjà auditionné à la voix. À part le rap, est-ce que tu aimes chanter d'autres styles de chansons aussi?
J'adore chanter. Chanter, c'est ma... ça a toujours été une passion-là. Que je... Genre, le rap, au début, j'étais comme... ça faisait longtemps que j'en faisais un petit peu. Mais chanter, c'est vraiment gênant. Je suis la fille qui chante bien, qui se pointe au karaoké, là, puis que là, tout le monde est comme, tu chantes trop bien, puis c'est vraiment mon seul moment où je peux me le faire dire. Wow. Puis que je suis comme, oh, ça me fait du bien. Ceci dit, tu sais, j'ai pas, je pense pas que j'ai les compétences pour. Tu sais, j'haïs vraiment le monde qui chante bien au karaoké, fait que je m'excuse. Je comprends que c'est pas pour moi. C'est pas supposé d'être pour nous, c'est supposé d'être, genre, pour les autres, là, ce moment-là, mais. T'sais, j'ai pas d'espace où je peux vraiment exprimer cette affaire-là. Là, que je sais pas ce qui va arriver avec le chant. J'aimerais ça prendre des cours de chant parce que j'ai pas comme le. Il me manque des outils. Je suis une bonne interprète. Fait que c'est sûr que ça... je pose pas puis j'interprète bien. Fait que à quelque part, ultimement, ça sonne bien. Là. Mais j'aimerais vraiment explorer ça plus. Je sais pas comment ça va se traduire dans ma vie encore. Là. J'ai pas encore trouvé la place, oui.
Dès le départ, en humour, tu as abordé des sujets pas évidents. Un de tes premiers numéros était sur les agressions sexuelles avant même que le mouvement MeToo apparaisse. Comment as-tu réagi lorsque la vague de dénonciation est arrivée?
Je pense qu'à quelque part, j'étais soulagée, là. Je veux dire, c'est sûr que c'était vraiment rough, là, d'entendre tout ça. Puis, t'sais, Dieu sait que j'en ai vécu de ma part, fait que ça... Oui, il y a ce sentiment-là de comme, OK, on est en train de libérer quelque chose, mais c'est toujours douloureux, là, de péter un nœud, là. Ça m'a fait du bien dans le sens où je me suis dit, OK, tu sais... En même temps, tu sais, je pense que je le sentais venir parce que quand j'ai commencé à faire le numéro, les gens étaient tellement comme... Oh wow, ça me fait bien que quelqu'un parle de ça, tu sais. Okay. Puis d'alléger la situation. Puis c'est moi, pour moi, ça a toujours été le but de l'humour, là. C'est vraiment de comme prendre quelque chose qui soit tabou, qui nous cause des douleurs, puis de vraiment juste enlever un peu la tension là-dessus, là, tu sais. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est leur outil d'humour, c'est vraiment d'enlever le malaise. Puis le MeToo, oui, c'est sûr qu'à quelque part, tu sais, même si c'était il y a du chaos là-dedans, puis que j'aimerais absolument que ça soit comme parfait, puis que tout le monde ait leur justice, je pense vraiment que faut que les gens montrent qu'ils sont pas bien pour qu'il y ait du changement. Fait que je pense que ça a ultimement été vraiment comme puissant et bon. Là. Puis si ça a aidé des gens qui étaient dans un peu l'ignorance heureuse de ne pas voir ce qui se passait, ben tant mieux. Là. Si ça a ouvert leurs yeux puis ils se sont dit, OK, wow, il y a vraiment beaucoup de monde. Tu sais, c'était cool dans le sens où tout à coup, ça prenait des ampleurs vraiment réelles où c'était comme, bon, là, vous pouvez vraiment plus dire, ah ouais, mais tu sais, moi, je connais personne. Là. Tout le monde connaît quelqu'un. Tout le monde. Il y a vraiment de quoi de grave qui se passe.
Oui, puis le milieu de l'humour a été très écorché aussi dans cette...
Mais je pense que tous les milieux artistiques ont été écorchés. C'est vraiment, tu sais, l'art, ça attire le pouvoir à travers de l'amour. Là. C'est vraiment... Il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont besoin profondément de l'amour, puis que l'amour des gens, c'est le seul pouvoir qu'ils peuvent acquérir, puis ça leur donne un pouvoir sur les gens. Tu sais, je pense pas que le végétariat... Je pense pas que c'est quelque chose de sain à la base, là, de vouloir accumuler l'amour des gens.
Ouais.
Je pense pas que c'est sain à la base, non, malheureusement. Là. C'est ça que c'est pas toujours ton choix, là, que les gens t'aiment ou pas. Là. Je dis pas que c'est mauvais et que tout le monde est mauvais, mais de désirer devenir célèbre, il y a quelque chose là-dedans qui, comme célèbre, là, pas désirer être compris, pas désirer être vu pour qui on est. Là. C'est comme être célèbre. Je pense qu'il y a quelque chose de malsain qui attire des gens qui ont le potentiel des choses mauvaises, je pense, malheureusement. C'est plate.
Ouais. Pour ton spectacle qui s'intitulait « L'aide », ta démarche était une réflexion sur la grossophobie. Tu as perdu 75 livres afin d'analyser le regard des autres. Est-ce que tu as constaté des choses que tu savais pas déjà?
Oui, puis non. Là. Je pense que ce que j'ai appris, c'est même pas quelque chose qui a été vraiment dit dans le spectacle. Ou faire un... j'en parle. Faire une diète, c'est pas soutenable, puis c'est... vraiment une obsession malsaine de faire des diètes. Genre, oui, j'ai perdu ce poids-là, puis j'espère que les gens n'ont pas compris de ça que, capable. Non. C'est une souffrance. Je ne peux pas vivre normalement du tout. Ça enlève tout le plaisir de ma vie. Je passe tout mon temps à m'entraîner. Puis si j'arrête pendant 10 secondes, là, je me mets à prendre du poids parce que mon métabolisme n'est pas rapide. Mon corps est... Tu sais, j'étais fatiguée. J'aurais pas pu continuer comme ça, là. C'était impossible. Vraiment, là. Puis c'est pas bon pour le corps. J'ai vraiment été maganée par ça. Mais ce que je voulais faire, ultimement, c'était parler comme la façon qu'un homme sexiste a besoin qu'un homme lui dise qu'il est en train d'être une merde. Là. Je m'excuse d'être une merde. Ben, il y a des personnes minces que ça enlève leur réalité quand quelqu'un de gros leur dit qu'ils sont traités différemment parce que les autres, ils disent, ben là, je suis pas juste traitée bien parce que je suis belle. Sauf que oui, il y a des privilèges, puis je dis belle, là, c'est pas parce que être mince c'est qu'il faut être belle, c'est juste que dans cette société-ci, ça a là un cachet.
Ouais.
Fait que c'est sûr, c'est presque interchangeable. C'est un peu ça le but du numéro. Ça l'est pas réellement. Laide n'égale pas grosse, grosse n'égale pas laide, là. Gros, c'est juste gros, puis la chose, c'était pas une question de ça. Ça parlait d'estime de ça, pis tout.
Mm-hmm.
Mais bref, il y a des gens qui ça enlevait leur réalité. C'est que pour moi, c'était de leur parler puis de faire vraiment, là, je te le dis, là, en ce moment, là, ma vie change parce que je suis dans le moule, mais le moule va me mener vers le burn-out, là, puis j'aurais vraiment besoin que les gens acceptent que mon corps soit comme qu'il est, là, parce que ça me rend malheureuse que les gens ils sont comme t'es dégueulasse. Quand tout ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir du fun puis d'être cool. C'est vraiment genre, j'essaie tellement fort d'être positive, puis le fun, puis cool. Puis oui, tu sais, c'est tellement pas une question de santé. Je suis plus en santé maintenant que je l'étais quand j'étais en train de me pousser à bout de mon souffle pour rentrer dans des petits jeans, là, serrés. Puis, tu sais, je l'ai fait pour l'humour, mais je serais jamais motivée de mener de cette façon-là dans la vie, là. Qui veut vivre une vie où ce que t'as aucun... Tu peux même pas manger du gâteau de fête à la fête de ton ami, là. C'est comme tellement triste. Mais je suis contente d'avoir fait le processus. Oui, ça m'a confirmé des affaires de façon plus concrète, là. Mais je veux dire, c'est des choses que c'est même pas à moi de les confirmer. Tu sais, en faisant le spectacle, j'ai lu plein, plein d'études aussi. J'ai plein d'études sur la grossophobie, sur le phénomène du privilège de personnes minces, de toutes ces choses-là. Là. Il y a des études concrètes qui prouvent. Fait qu'il n'y a aucune raison de nier l'expérience. Là, je l'ai faite parce que les gens ont besoin d'entendre des histoires, ils ont besoin d'entendre parler du monde. Mais les études sont là, là, pour backer tout ce que je dis.
Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent en humour?
J'ai plein de personnes qui m'inspirent en humour. J'ai vu Judith Lucie hier, d'ailleurs. Puis je trouve vraiment, je la trouve inspirante au bout parce que c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment dans le domaine de l'humour à la base, tu sais, qui est auteur, qui est journaliste, qui est comme super intelligente, puis elle a fait comme moi, je vais essayer ça, puis là, elle en fait, puis je trouve ça tellement cool de sortir de comme moi, étant multidisciplinaire, tu sais, sachant que je viens de plein de différents milieux. Ça m'intéresse toujours, surtout quand les gens ont des perspectives vraiment différentes ou qui ont acquéri plein de connaissances. Ça, ça m'intéresse profondément. Fait que elle en m'inspire beaucoup, surtout dernièrement, puis je viens juste d'acheter son livre en plus. Annuler, réflexion sur le cancer culture, là, que j'ai acheté hier soir. Fait que là, je peux pas vous en parler, que j'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté hier. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi qu'en arrivant ici, j'ai vu des femmes ultra puissantes. Je pense pas qu'à la télé, quand j'étais jeune, il y en avait tant. Il y en avait vraiment pas beaucoup. J'ai personne qui me vient à l'esprit quasiment. Puis quand je suis arrivée à Montréal, j'ai vu Kate Levesque, j'ai vu Rosalie Vaillancourt, Virginie Fortin, puis j'ai été vraiment comme waouh! Tellement forte, tellement bonne, tellement féministe, tellement incroyable, tellement tout ce que je veux être. Ils sont parfaits, je veux être exactement ce que je veux. Puis j'ai juste fait comme OK, je reste ici, puis je deviens leur amie. Mais oui, il y a tellement d'humoristes que j'aime.
J'ai vu que tu es assez active sur TikTok. Est-ce que tu as une bonne relation avec les médias sociaux?
Je serais pas prête à dire que c'est super sain, là, dans le sens où je suis toujours en train de faire des ajustements. Là, je check Facebook parce que ben moi, j'ai comme le syndrome du scroll. Là. Je check. Je fais toujours des tris Facebook, je scroll plus là, je poste mes jokes. Fait que mes enfants, ma famille, ma mère, elle poste juste Facebook, fait que je check sa page à elle puis tout. Mais essentiellement, j'essaie de pas me mettre à scroller puis checker des pubs. Là, Instagram, j'étais en train de scroller partout sur Instagram, fait que j'ai tout éliminé. Là, je pense que je suis 40 personnes. Puis je dis des personnes, mais c'est majoritairement des animaux. Fait que quand je vais sur Instagram, tu sais, je vois mes 40 photos de chats, puis là, j'ai fini, là. C'est ça. Fait que j'ai tout enlevé les personnes qui me servaient pas ou qui me donnaient des sentiments de jalousie parce que j'entends que c'est vraiment normal. Là. Tout le monde pose leur petite vie parfaite puis c'est comme dur à regarder. Fait que je suis, tu sais, Virginie Fortin puis Colin Boudriot qui sont des humoristes que j'aime beaucoup, mais j'en suis pas une tonne. Puis j'ai comme, tu sais, des mannequins grosses, des personnes queer que j'aime, que je suis, mais ça reste vraiment limité puis j'essaie de pas trop checker puis juste de me tenir à poster puis de répondre les messages. TikTok, par exemple, là, je suis pas encore détachée, là. J'ai un problème, je scroll beaucoup. J'adore voir, je me sens connectée à tout le monde, tu sais, mon algorithme, c'est tout le monde qui me ressemble. Fait que c'est ça, c'est vraiment de la drogue, là. Comme, tu regardes ça puis tu te sens bien instantanément puis tu peux rester là pendant toujours, là. Puis il y a plein de monde qui dit des belles affaires. Puis là, le monde a l'air tout à coup plus positif. Fait que c'est ça que je suis un peu encore accrochée là-dessus, mais je suis toujours dans... J'essaie de voir ça comme, OK, là, j'étudie, puis à un moment donné, je vais pogner mon bout où j'ai vraiment comme fait le tour. Selon moi, ça finit toujours par m'arriver. Je vais lâcher prise là-dessus, puis je vais juste faire ce que moi, je fais. C'est sûr qu'il faut que tu en regardes pour comprendre un peu la mécanique, puis voir tous les trends, puis toutes ces affaires-là. Et que c'est dur de rester balancé dans les médias sociaux, là, parce que c'est comme fait pour être addictif.
Ouais.
Puis moi, j'aime, tu sais, j'adore ces plateformes-là. Ça me permet d'écrire des affaires, de les proposer, puis d'avoir un contact immédiatement avec les gens, puis de voir leur opinion, puis de voir si les gens connectent avec ces idées-là. Puis là, après ça, partir avec ces idées-là, puis écrire des numéros qui sont vraiment bien ficelés, plus construits, apporter les idées plus loin, changer les idées. Fait que c'est utile pour moi, mais c'est un jeu dangereux. C'est ça que je trouve. Oui. Très dangereux.
Oui, puis quand on dit ce qu'on pense aussi, il y a inévitablement des haters sur les médias sociaux. Est-ce que tu as eu à dealer avec ça?
Dernièrement, il n'y en a pas tant parce que c'est sûr que le truc finit par se faire. La manie, t'es comme gars. C'est ma page ici. Tu as le droit à ton opinion, mais ton opinion est haineuse. Parce qu'en gros, général, là, c'est, j'ai dit des affaires positives. Une fois de temps en temps, tu sais, c'est sûr qu'on jauge mal des affaires puis on va un peu trop loin, là, mais comme ça m'arrive pas. Souvent, là, vraiment pas. Puis, une fois de temps en temps, oui, je suis comme, j'aille les hommes. Puis là, les hommes sont comme, OK, là, c'est gratuit. Puis je suis comme, OK, fair enough. C'était un peu gratuit, oui. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, une fois de temps en temps, il va y avoir comme des gens qui vont venir défendre une autre idée contraire que je suis pas en accord avec. Puis je vais être comme, gars, c'est super cool que ça te chercher, mais c'est pas la place ici. Là. Ici, c'est l'espace où on parle de ces choses-là. Fait que, t'aimes pas ça, tu peux t'en aller. Fait que, pour moi, au début, ça me dérangeait beaucoup. Puis je m'ostinais avec ces gens-là. J'étais comme, non, il faut que tu changes d'idée, mais maintenant que j'ai ma psy, elle tu sais. La manière que je vois ça, c'est que malheureusement, je peux pas, par la force, changer l'idée des gens en chicanant avec eux autres. Ça change pas leur idée, même que je suis pas mal sûre que ça les pousse encore plus profondément dans la direction qu'ils étaient déjà.
Ouais.
Fait que je vais juste faire comme... J'ai lâché prise sur ça, là. Je peux pas contrôler la vie de tout le monde. Je fais comme, ben, parfait, il y a pas de stress. Je m'excuse que ça te file de même, puis on continue sur nos chemins. Moi, c'est comme ça que je me sens. Fait que on a toutes nos expériences de vie, puis peace out. Comme, je perds plus de stress là-dessus, là. C'est sûr qu'il y en a, mais il y en a vraiment de moins en moins. Puis surtout quand t'es pas en train d'engager avec eux autres, il y a personne qui vient à leur défense. Ils restent seuls. Les choses restent là sans que ça devienne quelque chose ou un moment.
Ouais.
Ils finissent par oublier parce qu'ils n'ont pas eu de colère par rapport à ça. Ils ont senti une colère passante, ils ont senti le besoin de donner une opinion méchante. Ils ont passé à autre chose. Ils oublient, puis après, fait, c'est tant mieux.
T'as déjà personnifié un drag king au cabaret Amado? C'était dans quel contexte?
J'ai fait une drag queen, en fait.
OK,
oui, parce que au départ, j'étais comme, je fais un drag king parce que j'adore faire du drag king. J'en fais des vidéos parce que je suis un monsieur.
Oui,
que...
j'ai vu.
Puis j'ai fait le grand gala masculin avec Virginie Fortin au Mobilo Aquafest où essentiellement, l'idée, c'était que des femmes humoristes viennent en humoriste homme puis qu'ils se défoulent un peu, là, ils fassent toutes les jokes, des parodies, des blagues qu'ils trouvent gossantes, des personnages machos qui faisaient des speeches. Catherine Etty, elle faisait un papa Madelino qui était très défensif de sa fille, là, avec qui sa fille sortait. Rosalie Vaillancourt, elle a joué un genre d'open micer qui, comme son idole, c'est Mike Ward, puis qui veut être violent à tout prix, mais qui fait ça tout croche. Écoute, là, c'était vraiment comme tellement un exutoire. Là. C'est une de mes soirées préférées que j'ai faites de ma vie.
Wow.
Puis moi, puis Virginie, on faisait un genre de duo macho. Là. Puis, on parlait de sexe de façon tout croche, puis de nos blondes sont pas correctes, puis bébé. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'en fais encore, là. Je me mets une moustache des fois, puis je parle dans ma cam, puis vraiment, j'adore ça. Là. Puis je dis moustache, là, je me fais vraiment un maquillage au complet. Mais non, je voulais être une drag queen parce que à ce moment-là, j'étais vraiment, surtout à ce moment-là, quoi qu'aujourd'hui, je pourrais dire pareillement, mais vraiment à ce moment-là, j'étais complètement déconnectée de ma féminité puis de ce que c'est la performance de la féminité. Puis les drag queens sont beaucoup plus féminines que moi. Là. Et souvent, je me dis, je ne vais jamais être autant belle que cette drag queen-là, elle est trop belle. Fait que pour moi, je voulais atteindre un peu ce niveau-là de choses que je peux juste pas avoir, comme je peux juste pas vivre ça, d'être sexy puis tout. Puis moi, je suis comme quelqu'un de vraiment pogné puis de genre d'être cochon au bout. Puis dire des affaires crues, puis genre vraiment aller dans le plus loin possible de ce que c'est l'hyper-féminité, puis tout ce qui est comme une grosse joke de la féminité aussi.
Oui.
Fait que j'ai fait un personnage de drag queen quand je suis allée au Mado. Puis pour vrai, je pense qu'il y a plein de monde à ce moment-là qui ne savait pas que j'étais une femme. Même quand je me suis démaquillée, j'ai eu des commentaires comme t'as vraiment le visage parfait pour faire du drag, là. T'es un beau petit gars. J'étais comme.
C'est bien drôle.
Fait que tu sais, j'ai toujours. Je me suis en parlant avec la queen, ils étaient comme moi. Tu devrais l'essayer. C'est ça que tu as envie d'essayer. C'est que j'étais comme, yes, OK. Puis j'ai tout enlevé mes sourcils. Je me suis mis des nouveaux sourcils. Puis j'ai vraiment trippé.
Tu parlais-tu ou t'as chanté, t'as fait du lip-sync?
J'ai chanté même pour vrai. J'ai pas lip-synqué parce que je me suis dit, tant qu'à être là, je vais faire. Puis j'ai essayé de faire la split. J'étais pas capable, mais je l'ai essayé. j'ai essayé de lâcher mon lutte sur toutes les affaires que je sais pas que j'ai comme fantasme, mais que sont un peu comme la femme que j'aurais voulu être à quelque part ou que je peux pas être. Là. Pas que je veux vraiment être ça à 100%, mais des fois, tu sais, t'es comme, tu sais, j'aimerais ça rentrer dans le club, puis là, tout le monde est comme, shit, c'est puis là, elle est tellement hot, puis elle danse, puis waouh, elle fait ci. Puis moi, je suis juste pas cette personne-là jamais, là. Fait que pour moi, c'était comme un peu un excitant, là, de performer comme si je l'étais, là.
Est-ce que ça a été filmé, cette perfo-là?
Non, ça a pas été filmé, non. Okay. Puis une chance, parce que je pense que c'était gênant. Mais c'est parce que reste que je suis pas... oui, je performe, mais je pense que les drag queens, ils font juste mieux. Ils comprennent vraiment tout ce qui fait que ça marche, là, tu sais.
T'animes aussi un podcast, 50 nuances de coco, qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu en enregistres encore ou c'était pendant la pandémie?
Non, je suis passée à autre chose par rapport à ça. C'est sûr que j'ai d'autres idées de podcast. J'ai vraiment des projets en tête pour ça.
Okay.
50 nuances de coco, c'était vraiment une initiative de mon auteur Marianne. Elle voulait me sortir de ma zone de confort. Fait qu'on faisait des exercices créatifs, des improvisations, qui étaient des choses qu'à la base, là, souvent elle me propose des trucs, puis je suis comme non. Je dis non, beaucoup. C'est vraiment une fille qui se décourage absolument jamais. Je dis toujours non, fait qu'elle a comme un peu recueilli les choses que je voulais pas. C'est qu'elle m'obligeait un peu à travers de... Je pense qu'il y a comme 10 épisodes de une heure là, où elle m'oblige de passer un peu à travers de tous les scénarios, les idées que j'ai pas voulu explorer, puis qu'on fasse ça.
Okay.
Fait que c'était comme une exploration créative dans laquelle je croyais que j'allais beaucoup souffrir, puis que finalement j'ai eu plein de fun, puis que j'ai découvert que finalement c'était pas du tout une torture, puis que j'aurais dû dire oui à la base. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que je voulais sortir de ma zone de confort, mais j'ai beaucoup de misère à faire ça. Fait que pour moi, d'avoir un concept autour de ça où c'est vraiment ça le but, ça me permettait de faire cette exploration-là avec elle. Comme le BDSM et donc le titre. Parce que le BDSM, c'est un cadre où tu peux te libérer dans ce cadre-là, de règlement-là, parce que dans la vie, on veut pas de violence. Mais si tu en veux, ben ça prend des règlements pour que ça soit sécuritaire. C'est un peu comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est ça. 50 nuances de coco.
On va écouter la chanson « Gros Côte » que tu as faite avec Petit Papa. Est-ce que tu aimerais nous la présenter?
La tune « Gros Côte », ça, c'est vraiment la tune. Quand j'ai commencé à rentrer en studio pour mon EP, il me faisait écouter le nouvel album de Petit Papa, puis il était comme « Si tu veux, il y a de la place pour cette tune-là. » Puis j'étais vraiment comme « Oui », parce qu'il y avait un beat, parce qu'on a le même beatmaker, qui avait été déjà pris puis qui ne l'avait pas dit puis que j'avais choisi aussi.
Okay.
Puis là, il m'avait écrit pour me dire « Oh non, tu peux pas prendre ce beat-là, finalement, il va être pris pour cet album-là. » Puis là, j'étais comme « Oh non, je voulais vraiment rapper sur ce beat-là. » Fait que le beat, c'était le beat de la tune Gros Côte. Et que j'ai pu finalement rapper sur le beat, puis on tripait toutes les deux sur le beat. Puis ça parle de Gros Côte. Puis c'est le plus long feat que j'ai fait à date. Puis je suis vraiment énormément fière de ce que j'ai écrit. Là. C'est pas tout le monde m'a aimé parce que là, je suis en train de mettre beaucoup de pression sur ce que j'ai écrit. Mais j'ai vraiment adoré ça. C'est, encore une fois, pour la musique, tu travailles pas souvent en côte à côte. Fait que je l'ai enregistré en studio, mais j'ai jamais vu les deux autres. Fait que j'ai juste pu les écouter à la maison. Puis après ça, quand que tu vois le résultat fini, t'es comme moi, on fait tellement bien ensemble que ça me fait capoter.
Ouais.
Je suis bien contente puis bien fière. Puis écoutez.
Ça réchauffe comme de la red hot, mais check comment c'est fresh, hein. C'est smooth, je suis encore plus soft que de la fourrure de fraîche. Trop gelé, ça l'échappe, qui peut-être en léchant. Ça roule et s'éclairer, mais sont tricotés comme une écharpe. Mes idées ont besoin d'un coup de Zamboni. Je garde la tête froide, je suis comme un Clyde Zamboni. Troque les gougounes pour des bodlins, summer fling, bodlin. Presque trop sweet comme un milkshake podlin. Petit papa en décembre, quand le mercure redescend, nous autres on get down. Faut lever les gants si ça te ressemble. J'empile les textes en bonne neige, chronique de trentenaire. Je drop des lines, remettre de grand-mère. On chauffe pas le dehors, on chauffe même pas le dedans. Le bill d'hydro fuit par la porte de devant. Mais comme la gratte, je défonce les plates-bornes. Yeah, mais pas celle de la coupe belle. Anyways, l'hiver me tue pis me finit à coup de pelle. J'pense que t'es mieux de rester au chaud. Hey, petite papa, c'est comme un gros coup. Ça va être frais, je sais, c'est trop chaud. Après l'hiver, on passe à d'autres choses. Hey, j'pense que t'es mieux de rester au chaud. C'est comme un gros coup. Ça va être fraîche, je sais, c'est trop chaud. Après l'hiver, on passe à d'autres choses.
Et quand c'est fraîche, faut que je me réchauffe avec du positif. Pendant la tempête, tu posais dans mon domicile. J'check les glaçons sur les arbres, check les flocons qui tombent. J'appelle Charles et je dis quand est-ce qu'on fait du fond qui sont. Non, j'ai pas de foyer, mais j'ai plusieurs calorifères. À moins 40, je fais du bike, ça c'est mon sport d'hiver. On m'a dit que les saisons changent, après ça recommence. Quand tout va vite, prends ton temps, yeah, ça je te le recommande. Yeah, je suis posé dans mon réseau, posé quand je me réchauffe. Posé quand je suis chill, pas quand j'ai trop de poids sur mes épaules. Quand c'est froid, quand c'est cold, je suis bien dans mes couverts. Ça c'est pour ceux qui se réchauffent avec du feu dans des poubelles. L'hiver, je suis pas dans avec Hydro-Québec. Mon père m'a dit Sam, c'est se vivre au Québec. Habille-toi chaudement pour pas faire partie des gens qui toussent. Quand y'a de la neige qui tombe et du gros vent qui souffle, je pense que t'es mieux de rester au chaud.
Je pense que t'es mieux de rester au chaud. Ouais. Petite papa, c'est comme un gros coke. Ça va être fraîche et ça c'est trop chaud. Après l'hiver, on pense à d'autres choses. Je pense que t'es mieux de rester au chaud. Ouais. Petite papa, c'est comme un gros coke. Ça va être fraîche et ça c'est trop chaud. Après l'hiver, on pense à d'autres choses. Je pense que t'es mieux de rester au chaud. Aye. Petite papa, c'est comme un gros coat. Ça va être fraîche et ça, c'est faux chaud. Après l'hiver, on pense à d'autres choses.
Fait frais, je mets mon coat de suède. Avec les pattes sur les coudes, pis les boutons de cède. Ok, prête, pas prête, t'as un manteau sous les couvertes. C'est des manteaux qui nous gouvernent. J'suis pas imperméable, j'suis indestructible. Mon côté spatial, mon côté satellite. Ça me prend de l'espace, ça te prend du calamine. J'pense que c'est temps qu'on change la narrative. Y'a pas de coupe-vent, juste des courants d'air. C'est pas un conte de poids, c'est une proposition littéraire. Son backup avant que j'poigne les nerfs. Parce que ton polaire a pas l'air de te faire des belles affaires. Un parc parasite, porte-manteau parenthèse. Posé sur le lit ou accroché sur le dos d'une chaise. Des jackets à la bonne franquette. Tout juste un poncho, puis une paire de baskets. Ah, que la douceur c'est swell. Avoue que nos tricots t'ensorcellent.
Nous sommes de retour avec l'humoriste Coco Béliveau. Cette année, tu es porte-parole du 40e anniversaire de la Journée de visibilité lesbienne. D'ailleurs, tu fais la page couverture du Fugue magazine d'avril dans laquelle on peut lire une belle entrevue de Julie Vaillancourt avec toi. C'est rare que des femmes...
Oui, je suis tellement contente. Oui, et c'est justement ça que j'allais dire. C'est rare que les femmes sont sur le couvert.
Oui.
Je suis en train de regarder le couvert puis je suis tellement fière. Là. Pour vrai, là, je me suis vue dans un rack à l'épicerie puis j'étais comme... J'ai pris comme 30 copies. Pour vrai, je me serais tenue debout à côté du rack toute la journée en faisant « Ah! Ah non, j'étais juste ici. Oui, oui, c'est moi!
» Oui.
Je suis vraiment contente, puis je suis très contente aussi d'être porte-parole pour la Journée de visibilité lesbienne. C'est vraiment important pour moi. Tu sais, le slogan cette année, c'est « Invisibiliser, c'est discriminer ».
Oui.
Et c'est quelque chose que je crois profondément parce que je suis le produit de cette invisibilisation-là. J'ai vraiment sur le tort découvert ma sexualité. Puis c'est parce que il n'y avait aucun modèle dans mon entourage pour me montrer qu'il y avait autre chose. Fait que moi, je pensais vraiment que l'hétérosexualité, c'était quasiment, je vois ça comme c'était une obligation. Là. Puis je pense que il y a beaucoup d'études ou au moins de théorisations qui, je pense que c'est l'hétérosexualité obligatoire. C'est une théorie de Adrian Wright. Là. C'est un essai dans les années 80, mais qui parle de comment c'est le standard, puis que c'est le patriarcat un peu impose aux femmes ça, puis que souvent, on voit même pas que les autres affaires sont une possibilité parce qu'il n'y a aucun exemple. Et moi, j'ai vraiment vécu ça où j'étais comme, ben non, c'est ça que c'est pour moi. Puis, toujours de sentir que, ah, tu sais, j'aime beaucoup mon ami, mais c'est comme, ça doit être ça l'amitié ou des choses dans ce style-là. Fait que je pense vraiment, si j'avais eu plus d'exemples dans ma vie, j'aurais su plus rapidement. C'est juste plate. Tu sais, c'est plate d'arriver sur tort, là. C'est pas non plus, c'est pas grave, là. C'est sûr qu'on peut y arriver n'importe quand, puis il n'y a pas de stress, là. Ça change rien à la validité de tout ça. Mais je suis vraiment contente quand même de pouvoir participer à montrer puis mettre en valeur ces belles affaires-là. Même que moi, puis toi, on était dans le livre de la Journée de visibilité lesbienne en 2020. Je sais pas si ça me rappelle, là.
Oui, dans le Zine.
Oui, c'est ça. Et justement, si les gens cherchent des exemples, ils veulent donner de la visibilité aux gens de la communauté. Il y a le réseau de lesbiennes du Québec qui publie à chaque année un magazine avec des portraits là, de plein de personnes de la communauté. Puis là, on parle de vraiment tout le monde, là, des femmes queer, trans, bispirituelles, non-binaires, lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, là, vraiment... tout le monde que ça concerne, tout le monde qui rentre dans ce parapluie-là et se trompe dans ce livre-là, ils essayent de faire un super beau livre. Fait que si jamais les gens cherchent vraiment des exemples pour trouver leur communauté, il y a vraiment ça là, comme outil.
Oui, puis ils sont disponibles sur le site Internet du RLQ, du Réseau de lesbiennes du Québec. C'est vrai, on est dans la même édition, c'est le fun.
Oui, j'avais vu dans le livre que j'ai lu au complet. Là, puis c'est, il y a des super belles descriptions de tout le monde dedans, des gens de plein de milieux différents.
De partout au Québec, oui.
C'est vraiment que j'ai trouvé que ça, c'était tellement incroyable. Je savais même pas que ça existait avant que j'ai été dedans. Fait que faut se dire que j'imagine qu'il y a d'autres mondes qui savent pas. Là.
Ah oui, absolument. Est-ce que tu as fait ton coming out rapidement dans le milieu de l'humour?
Moi, je l'ai fait. C'est sûr que moi, j'écris à mesure que je vis. Fait que quand j'ai su, j'ai pas mal dit. Pour peine.
OK.
J'étais comme, OK, il faut que je vous parle de mes nouvelles découvertes de moi. Moi, parce que j'adore parler de moi. Puis j'ai fait mon commerce sain. Je pense, j'en ai même pas parlé à ma mère à ce moment-là. Et puis ma mère, elle fait cool. Là. À un moment donné, quand j'étais jeune, elle m'a dit, on va t'aimer plus important. Puis toutes ces affaires-là, le classique, je pense, c'est important. C'est tellement important de le faire d'avance, là, juste au cas où, puis pour donner cet espace-là. Puis c'est super cool qu'elle ait fait ça. Mm-hmm. Mais après ça, la conversation, c'est comme jamais réouverte. Là. On n'a jamais parlé. Puis j'étais comme, tu sais, je sentais pas le besoin non plus de dire, tu sais, c'est bien, je trouve ça tellement bizarre, là, de coming out, surtout aux parents, où est-ce que t'es comme là, je dois vous annoncer ma sexualité, là, juste au cas où que ça va pas être correct. Je dois vous dire avec qui je couche. C'est tellement bizarre, puis ça me tentait pas de le faire. Et je l'ai fait en number. J'ai parlé de ma blonde du moment, puis des commentaires qu'on se fait faire parfois, là, tu sais, de tout à faire, là. C'est tellement plate. Des fois, les gens sont comme, c'est qui là, c'est qui la fille, ou.
Ouais.
Ces affaires-là classiques, là, tu sais, on passe avec l'humour, on passe à travers de tout, là. Je sais que je passe à travers de ça. Puis ma mère a vu le numéro éventuellement, là, elle m'a demandé, tu sais, vraiment casual. Est-ce que tout ce que tu dis dans le numéro, là, c'est vrai. Oui, je suis toujours avec. J'aime ça être authentique. Elle fait OK, parfait. Elle a pas fait une big deal. C'était vraiment cool parce que j'ai fait tout maintenant. Là. Je veux pas que ta mère soit comme yes! Yes! Allez, mais yes! Mais en même temps, tu veux pas qu'elle soit comme non, 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 non.
Non, c'est ça.
Pour moi, c'était. Tu sais, je voulais qu'elle fasse comme si c'est normal. Là, fait que j'étais comme contente. Parce qu'elle a vraiment fait comme ben, tu sais, c'est ça ou ça. Fait que. C'est bien cool. Ça peut n'importe quoi. On s'en fout. C'est comme parfait. Mais j'ai pas voulu faire comme un coming out nécessairement one-on-one avec les gens. Puis je le fais encore pas. Puis je pense que des fois, les gens, ils assument sûrement que je suis. Ben, je pense pas que les gens assument nécessairement que je suis sûrement hétéro, là. Juste parce que j'ai un style super cool que je pense. J'espère, en tout cas. J'essaie que ça paraisse visuellement, mais c'est comme, qu'est-ce que ça veut même dire, ça? Mais ouais, définitivement, je voulais pas faire du one-on-one, j'en ai parlé sur scène, puis je vais en reparler sur scène sûrement. J'ai plein de sujets qui me préoccupent, là, en termes de justice sociale, puis puisque la visibilité, c'est important pour moi, c'est sûr que c'est important pour moi d'en parler, puis je pense pas que tout le monde a besoin d'en parler nécessairement, mais à quelque part, j'ai envie de l'entendre, fait que j'aimerais ça. Moi, j'en parle parce que c'est important pour moi. Puis aussi, tu sais, comment est-ce que tu trouves ta communauté si tu leur dis pas t'es où, là? Faut que tu fasses comme, ohé, ohé, je suis ici.
Oui, puis c'est important pour la communauté aussi qu'on puisse avoir du monde qui nous ressemble sur scène aussi.
Oui, puis qu'on se fasse crime. Ils sont bien normales, ce monde-là. Là. C'est pas genre weirdo, make weird. Tu en train de faire comme, c'est juste des humains qui existent partout. T'sais.
C'est ça. Est-ce que tu as été beaucoup sollicitée en tant que porte-parole de la JBL 2022 par les médias traditionnels?
Ça commence tranquillement. Là. C'est sûr que là, ça vient juste de sortir. Fait que ça s'en vient tranquillement. Les sites, ils ont su d'avance parce que, justement, Julie Vaillancourt a fait partie du même cahier de Réseau de lesbiennes Québec, celle qui a fait l'entrevue avec moi pour ça, et dans le même cahier que nous.
Oui.
Fait que c'est sûr qu'eux, ils ont su d'avance. Fait que l'article est sorti avant, là, puis ça fait du sens. Mais j'ai très hâte de voir, là, il y a un dossier de presse qui est sorti, puis toutes ces choses-là. Fait que j'ai hâte de voir où c'est que ça s'en ligne.
J'espère qu'ils vont te solliciter, parce que c'est quand même le 40e anniversaire.
Ben, moi, je le souhaite, puis je pense que ça va être. Si c'est. Il n'y a pas beaucoup de médiatisation, je pense que ça va être justement signe qu'il y a vraiment encore un problème. Puis, tu sais, je veux dire, il y a encore un problème, mais ça va montrer qu'il n'y a comme pas de désordre de changer, tu sais, parce que c'est vraiment important, là. C'est vraiment important. Puis, je pense que c'est important pour toutes les communautés, la visibilité, puis d'être vue, mais comme, c'est tellement important, là. Puis, il y a tellement de jeunes qui sont mêlés, qui n'ont aucun exemple, puis je pense vraiment que par l'éducation, on peut régler beaucoup de problèmes, là. Parce que ça sauve le monde d'avoir sa communauté. Ça sauve le monde, carrément. Ça les sauve. Ça sauve leur vie, là. C'est même pas une joke, là. C'est vraiment leur vie qui est en train d'être sauvée. Quand ils ont une communauté de gens qui les comprennent, il faut que ça marche. Il faut que ça se passe.
Bien, j'espère qu'ils vont souligner, c'est quand même 40 ans, puis il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que la journée de visibilité lesbienne existe, même si ça fait 40 ans.
Non, mais je pense que ça serait une belle occasion de commencer à s'initier à ça pour les gens qui ne sont pas au courant.
Oui.
Et je pense que, justement, ces périodes-là sont nécessaires pour qu'on parle avec des gens de la communauté, pour qu'on essaie de comprendre leur réalité, pour qu'on prenne une occasion pour mettre de l'avant des gens de la communauté qu'on n'a pas vu dans le passé, pour qu'ils partagent leurs enjeux, pour que leurs enjeux viennent dans les oreilles des gens. Peut-être qu'ils ne sont pas comme eux, mais que ça va ouvrir leurs esprits sur les réalités. Puis, c'est toujours bon, là. Ça fait du bien au monde. Ils sont plus polis par la suite. Ils disent des affaires moins gênantes. Puis il n'y a personne qui va être gênant. Là. Fait que, c'est ça. J'espère que les gens ne vont pas hésiter de me contacter. Je pense pas qu'on est gênant. Pas pendant tout. Je pense qu'on est super fine.
Oui, c'est génial. Tu parlais tantôt d'un EP qui s'en vient pour toi. Est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles en ce moment?
C'est ça que j'écris un nouveau énorme. J'ai Coco Classique qui est sorti, mais qui n'est jamais pleinement sorti, là, qui était supposé être pour le dernier Mobilo, puis que je vais le présenter au Mobilo Aquafest en juin. J'ai pas encore les dates officielles. On est encore en train de parler avec les salles. Mais ça va être au Fairmount, puis ça va être au mois de juin. Puis je le présente aussi à Moncton au mois de mai. Après ça, j'aimerais ça mettre ça de côté parce que je veux le présenter parce que j'ai pas eu la chance de le faire, mais je vais vraiment passer à autre chose. Là. Je suis en train d'écrire un nouveau spectacle. J'ai envie d'écrire un nouveau spectacle, surtout sur la santé mentale puis le self-care. Puis c'est sûr que ça va encore parler des signes de ça parce que le corps, c'est tout. Là. Je veux dire, je vis dans mon corps. Là. C'est comme ma maison spirituelle. Ça, c'est un ésotérique au moins, mais ça reste comme ça. Reste ça là. C'est complètement absurde encore, mais c'est là, puis j'ai comme pas le choix. Là. Puis c'est comme mon petit véhicule. Fait que ça parle un peu de ça. Puis c'est sûr que j'aimerais commencer à travailler sur un autre album. J'ai beaucoup d'idées pour des projets d'écriture puis tout, mais j'essaye de finir ce qui est sur mon assiette en ce moment. Quand le EP va être sorti, je vais pouvoir commencer à regarder un peu plus ça, où la musique s'en ligne. Puis quand le Coco Crassi va être fini, je vais être plus capable de regarder où mon une heure s'en va, puis toutes ces choses-là. Mais si les gens veulent suivre un peu le parcours, j'ai mon site web www.cocobelliveau.com, puis c'est Bellivaux, ça s'écrit B-E-L-L-I-V-A-U à l'acadienne. Pas d'accent, parce que j'ai juste un accent dans ma voix, pas dans mon nom. Puis sur ça, il y a tous mes liens pour toutes mes plateformes, mon Spotify, mon Bandcamp, si tu veux les acheter les tunes, mon YouTube, si tu veux aller checker ce que je fais là. C'est sûr qu'il y a mon podcast, je fais des ASMR parfois, c'est un peu ma passion, juste parce que j'adore des moments. Fait que j'en ai fait quelques-uns. Pour les gens qui aiment ça se faire chuchoter la nuit, j'ai mon Instagram, j'ai plein de stories sur mon TikTok, j'ai plein de réflexions funny. Si t'as envie de passer une petite journée légère là, à écouter des niaiseries, tu peux scroller à travers de ça. Il y a vraiment un infini de contenu là, sur mon site web, des photos. J'ai de la merch aussi, je pense. J'ai fait un chandail avec Poche et Fils, là, avec mon logo de Slim Shediac, là, qui est mon nom de rappeur.
OK.
Fait que j'ai plein de trucs sur mon site web. Là. Ouais, c'est ça, dirige les gens sur ton site web, coucou, quel plan. mais il y a plein de trucs là, puis il y a toujours moyen dessus. Puis c'est sûr que je pose toujours les dates, puis les événements sur mon Instagram, puis sur mon Facebook. Fait qu'il faut vraiment suivre, parce que sinon vous allez manquer les affaires. Vous allez les manquer.
On veut pas manquer ton prochain spectacle, c'est sûr.
Non, effectivement, ça va être wild.
Puis, est-ce que tu fais encore les mardis de l'humour au Brouhaha Antique?
Oui, en ce moment, je fais ma chronique là-bas. C'est vraiment comme mon... J'aime bien mon safe space, quasiment, là. Je vais là, tu sais, c'est tous les humoristes confondus. C'est juste parce que c'est comme plus loin dans Montréal. Fait que je vais là pour, genre, improviser, essayer vraiment des affaires où j'ai des idées. Puis là, je les organise un peu sur scène. C'est vraiment mon moment chaos, là. Mais ça reste vraiment bon. C'est comme... Pour vrai, je pense que je suis à mon meilleur quand ce que je me sens super libre. Puis ça, c'est un de mes spots où je me sens super libre de vraiment m'exprimer. Puis, tu sais, le booking est toujours vraiment diversifié. Fait qu'il y a plein de monde de toutes les sortes parce qu'on a vraiment un souci pour ça. Ce n'est pas un espace uniquement féminin, par exemple. C'est toujours ma préférence. Mais non, il y a des hommes. Ceci dit, c'est quand même le fun parce qu'on voit vraiment beaucoup de gens cool puis différents. Puis c'est comme... Je trouve que c'est vraiment une excellente soirée. Je suis quand même fière de ce que c'est. C'est sûr que c'est un peu loin dans l'antique, le bourreau antique.
Ouais.
Mais c'est justement pour ça que je me sens libre là. C'est comme d'aller dans ce petit coin-là, plus loin de tout. Plus loin de tout, pareil sur l'île.
Ouais.
Mais comme pour moi, on dirait que c'est tout un autre monde. Fait que je me permets vraiment de faire comme, OK, ici, il n'y a pas de pression. Ça m'enlève beaucoup de stress. Puis tout à coup, je peux vraiment, tu sais, comme, je suis jamais plus moi que là.
Puis, est-ce qu'il faut acheter des billets à l'avance ou on peut se présenter?
On peut acheter des billets à l'avance. Il y a un lien sur la page du Brouhaha Antique, je crois. Puis, ça, c'est pas un lien sur mon site, par contre.
Ça s'appelle les Mardis de l'humour au brouhaha antique.
Oui, c'est ça. Les Mardis de l'humour au brouhaha, il y a une page avec des liens pour les billets tous les semaines. Si on show, on donne un code promo au spectacle pour le spectacle d'après. Fait que de cette manière-là, si t'es là, ben t'es comme dans la gang pour la prochaine, tu vas te payer moins cher. Oui, c'est ça. Tu peux acheter des billets en ligne. Tu peux acheter des billets à la porte, mais c'est sûr que ça, en ce moment, puisque il y a beaucoup de demandes, fait que ça vend quand même rapidement. Fait que moi, je conseille d'acheter d'avance.
Avant de traverser la ville.
Oui, surtout pour se rendre là-bas. Je prendrais pas le risque, je sais pas.
Oui. On va se laisser avec Hockey Boomer, qu'on peut retrouver sur Coco Spotify. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur Hockey Boomer?
Oui, Hockey Boomer, c'était un peu genre le beat que j'avais. J'ai reçu des beats pour ma fête, puis c'était là, il était tellement bizarre, puis je me cherchais, je sais pas, j'ai juste sorti ça, puis j'étais en train d'écrire un beat d'humour sur les boomers à ce moment-là, qui avait la prémisse de diviser un peu les boomers puis Hockey Boomer, parce que les boomers, ils aimaient vraiment pas l'expression Hockey Boomer, là. Ils étaient comme non. Hockey Boomer, c'est une insulte profonde, puis j'étais comme non. Faut que vous compreniez, il y a vraiment deux sortes de boomers. Il y a vraiment les boomers, puis il y a les hockey boomers. Puis les hockey boomers, ça donnait à ceux-là qui sont pas hockey. Ils vont pas bien. C'est comme les qualités négatives de cette génération-là. Comme si on disait les hockey millennials, tu sais.
Ouais.
Fait que là, je voulais écrire là-dessus un peu pour défouler ces frustrations-là sur un peu les genres de mentalité de mon oncle. C'était comme un beat expérimental. Puis là, j'avais cette idée expérimentale un peu, puis j'ai J'espère que les gens vont apprécier. Moi, j'ai beaucoup eu de fun à écrire ça.
Merci beaucoup. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir, Coco Bellibou.
Ben, merci à toi. C'était le fun.
Oui. Bye.
Bye.
Moi, je considère en fait qu'il y a deux sortes de boomers. Il y a les boomers, puis il y a les OK boomers. Puis ça tombe juste que les OK boomers, c'est ceux-là qui sont pas OK.
T'arraches les oreilles, mon espèce de monde. Tu que ça se peut pas que tu sois un
boomer. OK boomer. Hockey boomer, hockey boomer. Des Facebook boomers dans des parties de Noël. Des mononcles Marcel qui font des jokes d'incels. Des macho boomers avec des pick-up. Des boomers racistes qui disent des choses fucked up. Des monsieur blancs de 50 ans qui veut plus qu'on ait droit à l'avortement. Hockey boomer, hockey boomer. Des boomers au bye-bye, des boomers tie-dye, des boomers qui veulent le retour d'Éric Salvay. Boomer pas pertinent, boomer plus de données de compliments. Boomer pédant dans sa cave à 20. Avez-vous vu boomer boom Desjardins? Ok boomer, laisse-moi te dire un secret, je veux s'affionoler même si t'as trouves pas belle. J'aime les hommes imbibes pis métrosexuels, pis je freine ces filles avec du poil d'aisselle. Pis si t'as rien de bon à dire, ben femme ta gueule. Ok boomer. Ok, boomer. Boomer rayeur, boomer chroniqueur. Des boomers qui disent ok, boomer. Boomer riche ou boomer tatoué. Y'a même des boomers qui s'appellent Denise Bombardier. Ok, boomer. J'veux des boomers cool qui font pas peur. Qui font une pomme au lieu de faire un cœur. Boomer paye mes études, boomer garde des trucs. Des boomers qui chill avec d'autres boomers dans le sud. Des boomers au Tim's qui se prennent un petit double. Des boomers qui donnent un coup de main pis un petit coup de coude. Des boomers sur internet qui s'appellent Ginette pis qui signent le nom quand ils parlent sur le web. Les autres sont corrects.
C'est encore les contribuables qui vont contribuer à ça.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci à notre invité, Coco Bellevaux. Je vous invite à aller visiter son site web au www.cocobellevaux.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se laisse avec un autre rap de Coco qui s'intitule Meilleur et on se donne rendez-vous le 18 avril prochain à 19h pour une autre émission de Les Beaux Sons. À bientôt.
Tu m'impressionnes pas, même pas dans le moindre des cas. Je regarde d'en haut parce que tu rappes en bas. Pas de chaussures, juste des crocs. La seule chaussure, si tu pousses ta loc, Camille toc toc, qui est là toxique. Je fox pas, mais je dis fuck this. J'ai mis ma main de velours dans un gant de fer. Mais t'as pas compris ta leçon, fait qu'à quoi ça sert? I can do that.
J'écris des bonnes jokes, pis en plus je fais du rap. I'm gonna eat that piece of pizza. Si tu me cherches show pizza pizza, en train de sourire comme la Mona Lisa. Check tes mesures, t'écoutes un mètre. C'est juste moi, mon cœur pis ma tête. J'fais pas des choses pour paraître, j'travaille pas en peut-être. Check, j'ai le vent pis le S qui match.
Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
CKUT's annual funding drive, CKUT Till Infinity, takes place from March 17th to 27th, 2022.
We have brand new merch available for our donors, including shirts, bags, and hats.
Donations over $30 will also be entered to win from a selection of exciting prizes from our sponsors.
This year's sponsors include
Loofah Farms,
Briar Patch Magazine,
Pop Montreal,
Encore Books and Vinyl,
Drawn and Quarterly,
La Bobineuse,
RIDM,
Mutech,
Centaur Theatre,
CNL Cycle,
La Maison des Dières,
Cinéma du Parc, Bobien and Dumuse,
Death of Vinyl,
La Rama Records,
Constellation Records,
Celluloid Lunch Records,
and Pizza Bouquet.
CKUT would like to thank our community sponsors whose generous support helps put the fun in funding drive.
For more details on prizes and to donate, go to ckut.ca/donate.
In the case of symptoms similar to those of COVID-19, such as fever, cough, sore throat, loss of taste, or smell, you should take a rapid home screening test. If you test positive, isolate yourself at home and please follow the self-isolation instructions. If you don't have a rapid home screening test, please self-isolate for the recommended period. Visit quebec.ca/self-isolating for complete instructions on how to protect yourself and others. A message from the gouvernement du Québec.
Mercredi,